Vous êtes bien dans l'émission Pierre qui roule vers vous. J'ai du beau monde aujourd'hui autour de moi. On va parler d'un film documentaire très poignant. Il faut couper dès la racine. Donc j'ai quatre personnes autour de moi qui gravitent autour de ce documentaire. Je vais, on va faire un petit tour de micro pour que vous puissiez vous présenter. Donc j'ai à ma droite...
Dragos Ouedraogo. Le réalisateur du film.
Le réalisateur. Ensuite, nous avons...
Mamadou Kouma, producteur du film.
Ouais.
Lola Garcia, témoin et actrice du coup dans ce film.
Ouais.
Et Muriel Pécassou, coproductrice du film.
Et directrice de la mission locale.
Et directrice de la mission locale des Hauts-de-Garonne.
C'est ma responsable qui est là. Ma directrice à moi. Bon, bah, bienvenue. On va vraiment on va décortiquer un petit peu toute la création et tout ça de ce documentaire. L'impact que ça a. Toi, Lola, en tant que témoin, enfin actrice, on va un petit peu débriefer tout ça, l'organisation, comment ça s'est construit. Dragos, donc toi, comment c'était venu ce projet ?
Ben, le projet, c'est CIS, le Centre d'insertion socio-économique,
oui,
qui a répondu à un appel à projet,
oui,
de la CAF, la Caisse d'allocation familiale 33, voilà, qui est au sortir du confinement, a proposé un appel à projet sur la thématique des violences conjugales.
Oui.
Parce que il s'est avéré que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de cas de violence.
Oui, une explosion de...
Violence dans les intrafamiliales, conjugales, etc. Mmh. Et donc la CAF a eu l'idée de proposer un appel à projet. Et nous y avons répondu en proposant un film documentaire,
oui,
comme support pour sensibiliser les gens autour de ces questions.
Oui.
Ce sont des questions sociétales.
Et hyper, voilà, importante.
Voilà, et donc voilà, c'est parti de là.
D'accord.
C'est parti de là. Bon, ensuite, évidemment, faire un film, ça demande de réunir des moyens.
C'est ça.
Des moyens financiers, logistiques, etc. Et bon, c'est la partie de la production, donc je vais laisser Mamadou Kouma et Muriel aborder ça.
D'accord.
Voilà.
Oui, ben, c'est vrai que déjà on a une habitude de travail avec CIS et avec Dragos, hein, puisqu'on, oui, a fait d'autres documentaires. Celui-là étant quand même beaucoup plus important par rapport à tout ce que l'on a pu faire jusqu'alors. Alors c'est vrai qu'après il faut essayer d'aller chercher des financements, ce qui n'est pas simple. Il y a eu cette première réponse, mais il y a très longtemps en plus. J'ai plus la date, mais c'était il y a longtemps.
Ouais.
Auprès de la CAF de la Gironde. Après, on s'est employé à répondre à plusieurs dossiers, faire plusieurs demandes pour pouvoir avoir des financements. Hein.
Mm-hmm.
Donc, je vais les citer, hein, pour ne pas les oublier, mais c'est vrai qu'il y a le département de la Gironde, hein, qui a financé. Il y a la fondation EDF et il y a la fondation Macmillan Stewart.
Mm-hmm.
Mon anglais,
joli,
est très bon.
Oui, hein, l'accent était bien.
Donc voilà. Et puis après, il y a l'investissement. C'est pour ça qu'on est coproducteur. Mais au temps de CIS, que ce soit en temps, en moyen aussi,
oui,
que la mission locale qui a aussi participé. Donc chacun à notre niveau, hein, pour répondre aux appels à projets, pour organiser des comités de pilotage, pour organiser aussi l'avant-première.
Ouais.
Donc c'est un travail collaboratif, on a l'habitude de travailler ensemble et il n'y a pas de souci là-dessus.
Mm.
Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris du temps,
oui,
parce que ce type de documentaire prend du temps si on veut le faire correctement. Je ne sais pas, Mamadou, à toi un peu.
Non, effectivement, bon, je vais répéter ce que Muriel a dit. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble.
Ouais.
Et puis, nous sommes tous très engagés, Muriel, Dragos et moi. Notre souhait, c'est vraiment le bien-être de l'humain.
Ouais.
Et nous avons toujours œuvré dans ce sens-là. Et les femmes font partie intégrante.
Bien sûr.
De cet humain. Mmh. C'est le centre de gravité. Voir les femmes souffrir et rester sans rien dire est une forme de complicité à notre égard.
Oui, complètement.
Donc c'est pourquoi nous sommes fait un devoir de répondre à cet appel, donc, à ce projet.
Mmh.
Et nous nous y sommes investis, comme d'habitude. Muriel a dit tout à l'heure, on a l'habitude de travailler ensemble. Bon, c'était la manager générale.
Hein. Il faut des femmes pour mener les trucs.
Voilà, et qui nous, souvent nous tire les oreilles, nous rappelle à l'ordre, là, quand, voilà. Elle est d'un apport considérable. Bon, c'est le cœur même de l'action. Et puis, nous avons aussi beaucoup appris. Donc, avec elle, dans la rigueur, dans la façon de voir les choses, etc. Bon, sommes un peu rebelles, nous, un peu marginaux.
Faut voir ce petit côté rebelle.
Voilà. C'est le côté administratif.
C'est le côté administratif là qui nous.
Je comprends, mais bon, moi, j'ai bien l'habitude de le faire.
Voilà. Et notre objectif, c'était vraiment de donner la parole à ceux qui vivent ce calvaire quotidiennement.
Oui, oui.
Parce qu'elles sont les mieux placées pour parler de ce qu'elles vivent. Elles sont les mieux placées pour élaborer des stratégies pour s'en sortir. Elles sont les mieux placées pour pouvoir continuer à vulgariser ce projet. Nous, nous ne sommes que des moyens qui sont venus leur partager avec eux cette confiance-là. Et ce n'est pas facile d'avoir ce genre de film sans confiance, une profonde conscience qui s'est passée entre le réalisateur et les témoins, et puis avec nous deux autres aussi. S'il n'y avait pas de confiance, on n'aurait pas atteint ce résultat-là.
Bien sûr.
Notre objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse voir ce film-là, que tout le monde joue aussi un rôle. Et permettre à la femme vraiment de retrouver son équilibre, que ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas une chose, ce n'est pas la propriété d'un homme, et qu'il est de notre devoir de le respecter en tant que mère. Ma mère me disait toujours, tu sais mon fils, le jour où tu manqueras du respect à une femme, même si tu piétines un œuf, tu ne pourras pas le casser. Voilà. Souviens-toi, à chaque fois que tu as affaire à une femme, pense à ta mère. Et quand tu penseras à ta mère, tu respecteras la femme. Donc, je laisse la parole à...
Oui, du coup, j'ai la gorge nouée, c'est malin. ma place, du coup, comment... Voilà, moi, je suis artiste, je suis chanteuse. Donc, j'avais rejoint l'association Agir contre les violences faites aux femmes depuis 2019. Pardon, au départ, c'était dans un premier temps pour proposer des concerts, voilà, pour mettre la femme à l'honneur. Et voilà, essayer de retrouver un petit peu, d'une part, les mettre en avant pour qu'on puisse de nouveau discuter de leurs objectifs, de ce qu'elles font sur le terrain. Et en parallèle du coup, voilà, faire un petit peu parler de cette voix de femme. Et... c'est d'abord avec cette casquette d'artiste engagé auprès de l'association que j'ai rejoint donc ACV2F. Et ça m'a aussi permis en fait, d'avoir un accompagnement et de me rendre compte que bah, moi aussi, finalement, j'avais besoin d'aide. Et donc, c'est comme ça, là, en 2000... je ne sais même plus. Donc, quand le projet s'est mis en place, du coup, voilà, l'équipe m'a proposé avec d'autres mamans, parce qu'on accompagnait nos enfants sur des ateliers de sophrologie. Et donc, bah, sur ces temps-là, on a pu discuter du projet, rencontrer Dragos et Emmanuel. Et c'est vrai que j'avais pas forcément conscience à l'époque de l'importance de témoigner. On dit qu'on est témoin, c'est surprenant parce qu'en fait on a été des victimes, mais on est témoin parce qu'aujourd'hui on témoigne de notre parcours. Mais comme je le dis, il y a eu cette relation de confiance qui s'est installée, qui s'est mise en place. Moi, je vous l'aurais dit tout à l'heure, merci en fait de nous avoir aussi offert cette opportunité parce que du coup on a témoigné à cœur ouvert sans se dire je le fais pour ci, pour ça, parce que c'était vraiment des discussions libres et nos entrailles hein, qui parlent sur ce film. Et en fait de le revoir, ça fait vraiment partie d'un chemin nécessaire aussi nous à comprendre ce qui nous est arrivé, de plus banaliser ce qu'on a vécu comme étant un quotidien à l'époque presque normal. Et aujourd'hui, c'est vrai que le soir de l'avant-première, c'était bouleversant. Cette salle qui s'est levée, qui nous a applaudi comme si on était des femmes courage, des super-héros. Donc c'était à la fois très, très encourageant de continuer. Et à la fois, c'est vrai que moi, ça m'est toujours un petit peu en colère. Je vais le dire comme je l'ai ressenti à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas fait par courage, en fait. Je le fais vraiment parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est mon devoir. C'est mon devoir de parler, de raconter ces témoignages pour qu'en fait on ouvre les yeux. Mais pas que les femmes ouvrent les yeux sur ce qu'elles vivent, mais que tout un chacun ouvre les yeux.
C'est ça.
Et en fait, c'est semer ces graines pour que chacun se fasse un petit peu plus confiance de l'intérieur et dire quand il y a quelque chose qui gêne, et bien d'aller creuser un petit peu. On fait souvent ce parallèle, on en a parlé tout à l'heure, avec cet aspect de jardinage, il faut couper dès la racine. Bah, quand on a un doute, je reprends l'image, hein, on vient d'acheter un terrain, on a un petit bout de plante qui pousse, si on n'est pas sûr de savoir si c'est des ronces ou des coquelicots, bah, on va se renseigner. Bah, en fait, elle est là déjà, cette première prise de conscience en tant que témoin ou personne qui voit quelque chose, tiens, il y a un truc qui me gêne, je vais aller me renseigner. Donc c'est là que les associations, elles sont utiles, c'est là qu'on a tous les services sociaux qui peuvent nous renseigner, aussi bien en tant que témoin qu'en tant que victime qui ne s'en rend pas compte. Et puis l'importance de cette phrase, dès la racine, dès qu'on est sûr que c'est des ronces, on n'a pas besoin d'avoir 14 buissons pour savoir que c'est tout pourri là. Donc on enlève et on coupe dès la racine. Ouais. Donc il est là vraiment en fait aujourd'hui, on traverse un parcours du combattant quand on vit ces violences, quand on essaie de s'en sortir, quand on a l'impression de s'en être sorti parce qu'on a juste quitté un lieu. Moi ça fait plus de 3 ans que je suis séparée et je suis encore complètement dans le parcours du combattant parce qu'après il y a toutes les procédures, les lenteurs. Ça se met en place, ça avance mais très lentement. Donc c'est très long tout ce chemin-là et en fait toutes ces étapes et ce témoignage, notamment, est important.
Oui, même pour le processus de reconstruction.
Complètement. Parce que plus on l'extériorise, plus après on peut aussi en échanger avec des professionnels, des personnes qui sont concernées ou pas, comme là, autour d'une table. Et c'est aussi comme ça, en fait, qu'on fait une lecture différente de ce que l'on a vécu. Et moi, je m'en suis rendu compte, relire mon premier procès-verbal d'audition de gendarmerie, puis après les premiers échanges au tribunal, etc., de me rendre compte comment l'emprise, elle dure très longtemps derrière. Et que essayer, alors on n'est jamais totalement objectif, mais de lire ce que l'on a vécu sans banaliser le quotidien, il faut des mois, voire des années.
C'est sûr.
Et même encore aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, et puis la procédure brasse encore régulièrement. Il y a des moments où je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas voir? Et bien en fait, c'est là où c'est important d'être accompagné.
Oui.
Parce que on fait ce qu'on peut. À l'instant T, j'ai pas vu. Aujourd'hui, je le vois, mais parce que j'ai traversé tout ça. Et c'est grâce aux accompagnements sociaux, psychothérapie, l'association d'aide aux victimes. Merci à CV2F d'avoir été là. Ouais. Et là, en fait, sans être là au départ, parce que elles avaient vu, elles m'accompagnaient. Et puis quand j'ai été prête, elles ont pu un petit peu me ramasser. Mais en fait, déjà parce que j'avais eu envie de m'engager pour cette cause-là, heureusement que j'étais déjà accompagnée. En fait, j'en avais pas conscience à ce moment-là, mais heureusement que j'avais déjà, parce que ça fait 3 ans, mais c'est très court par rapport à des chemin de reconstruction.
C'est très frais.
C'est complètement.
3 ans, c'est rien.
Là, je suis encore pleinement dedans. Je suis sortie du plus dur, mais je suis pas sortie encore du tunnel. Mais je vois la lumière déjà, c'est bien.
Oui, c'est bien. Ouais. Moi, j'en ajouterais parce que Lola nous parlait donc de l'avant-première qui a eu lieu en novembre, je crois.
C'était novembre. Le 5 novembre.
Au Rocher de Palmer, où la salle était plus que comble, parce que nous, on était debout. Enfin, c'était assez impressionnant le nombre de personnes qu'il y a eu. C'est vrai que ça a été un temps très, je sais pas comment dire, émouvant, très poignant, très. Quand tout le monde s'est levé, ce que disait Lola. Mais Lola a dit quelque chose ce soir-là, et ça, je tiens à le redire, parce qu'elle ne le dit pas là. Il ne s'agit pas, à un moment donné, d'être là et d'être touché, c'est tous les jours. Et il ne faut pas oublier, après. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que ça permet, elle l'a mieux dit que moi, je ne sais plus comment elle l'a dit ce soir-là, mais c'est vrai que, voilà, c'est une alerte, ça sensibilise, mais il ne faut pas sortir de la salle. Malheureusement, j'en parle aussi, mais ce nom a ensuite été touché par un féminicide quand même. Et on a une pensée pour Nasrin et pour sa famille. Mais on voit bien que voilà, il faut pas simplement en parler une fois. C'est tous les jours, toutes les secondes.
Il faut rabâcher. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui était jusqu'alors tabou, je mets des gros guillemets, on n'en parlait pas aussi. On commence maintenant à prendre un peu conscience, mais c'est le boulot, il est long. Il y a un énorme travail.
C'est vrai, j'avais un peu parlé aussi en travail à Corouvert, mais il y a maintenant toutes les personnes de la salle. Quand vous avez un doute, vous le savez. On peut plus dire je savais pas. Non, on sait. On a eu ce petit truc qui a été réveillé. Tout le monde a eu ce bouleversement un petit peu reconnecté à soi-même de dire quand j'ai un doute, en fait je vais creuser un peu. Maintenant on peut plus dire les œillères elles sont enlevées. Toutes les personnes qui étaient présentes, tous ceux qui auront vu le film, on peut plus se dire je suis pas sûr. Si ça résonne à l'intérieur, c'est que c'est pas est-ce que je peux faire quelque chose, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire
Ouais, c'est,
Ça touche tous les milieux, le monde entier, tous les milieux. Enfin voilà, donc ouais. C'est de tous les instants. Mais c'est Dragos ça. Va nous dire peut-être comment...
Oui, comment... puis comment on a l'organisation justement avec ces rencontres, avec ces témoins. Justement, comment ça s'est passé?
Bon, d'habitude, dans mes films, la construction de mes films, il y a toute une phase de prise de contact
oui.
avec les personnes que je veux faire participer au film. Et souvent, je dis, je ne filme pas les gens.
Oui.
Je construis un film avec eux. Oui. Voilà, c'est vraiment...
C'est autour d'eux.
Avec eux, c'est, voilà, on travaille ensemble. Et donc, pour ce film-là, encore plus, compte tenu de ce thème qui est très sensible,
oui.
donc il a fallu prendre des contacts. Je suis passé par le canal des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, donc qui ont une expérience, qui connaissent les femmes, qu'elles accompagnent, et de voir avec elles qu'est-ce qui est possible... Voilà, de me mettre en contact avec celles qui souhaiteraient participer au film. Mais évidemment, ça demande de les rencontrer.
Oui, ben oui.
Voilà, d'exposer le projet et d'être à leur écoute. Et à partir de là, le lien peut s'établir, pas immédiatement, parce qu'il y a première prise de contact, deuxième prise de contact, et ensuite on peut commencer à parler du film, de comment on va le faire. En laissant complètement ouvert dans le processus de la réalisation ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas, où, le lieu du tournage, etc. Voilà. C'est ce dispositif-là que j'ai mis en place. Bon, donc, il y a plusieurs associations qui étaient parties prenantes. D'autres associations n'ont pas voulu, n'ont même pas répondu. Bon, mais ce n'est pas grave. Il y en a qui ont accepté de me rencontrer, mais n'ont pas voulu, parce que il faut dire que pour certaines associations, un homme qui veut faire un film sur les violences conjugales, ça leur paraissait assez bizarre.
Ah oui.
Voilà. Il y en a même qui m'ont demandé, mais pourquoi vous, en tant qu'homme, vous voulez faire ce film?
Ah oui.
Voilà, c'est ça. Et bon, j'ai dit. En fait, je ne découvre pas ce sujet. Dans mon parcours personnel, ma vie personnelle, j'ai moi-même été sollicité par des amis, des copines qui avaient des soucis avec leur mari et que j'ai dû aider.
D'accord.
Moi, j'ai accompagné des copines au combat.
Ah oui.
J'ai accompagné des copines à aller porter plainte à la gendarmerie. J'ai hébergé des femmes qui étaient victimes de violences de leur mari.
Oui, et qui avait fui le,
oui.
le foyer.
Et je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis le confident de beaucoup de femmes sur les difficultés qu'elles ont.
Oui, aussi.
Mes étudiantes ou des amis, ainsi de suite. J'ai dit, bon, je suis sensibilisé à ça. Ensuite, dans ma filmographie, j'ai souvent fait des films sur les droits des femmes.
D'accord.
Quelquefois, il y a des films qui ne sont même pas sur le thème des femmes, mais il y a toujours une femme ou des femmes dans mes films. Voilà. Même ayant dit tout ça, ça ne les mettait pas forcément en confiance. Elles ne me voyaient pas vraiment légitime pour faire ce film. Voilà. Bon, après, d'autres canaux de rencontre, au-delà des associations, c'est des liens personnels.
Oui.
Des amis qui me disent, bon, sur quel film tu es en ce moment? J'ai dit, ah, je suis en train de préparer un film sur les violences conjugales, on y travaille, voilà. Ah, mais je vais en parler à une amie, j'ai une amie qui a des soucis, je vais voir si elle est d'accord, comme ça tu pourras la rencontrer. Donc il y a eu aussi ce canal, voilà. Donc Mamadou aussi avait d'autres contacts, ainsi de suite. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à faire des rencontres. Et je ne les rencontrais pas tout seul.
Oui, d'accord.
Parce qu'il y a Emmanuelle Sanson, celle qui a beaucoup travaillé sur le montage du film. Et aussi, elle a participé au tournage.
Oui.
Moi, j'étais persuadé qu'une équipe de tournage sur un thème comme ça, il faut une femme. Et c'est pas juste pour le décor. parce que ça permet aussi à mes interlocutrices, tu vois, d'avoir quand même une confiance, parce qu'il y a une femme comme elle qui est là, dans l'équipe de tournage du film.
Il y a une égalité.
Voilà, donc il y a quand même ce dispositif-là qui a été mis en place au cours du tournage pour favoriser la libération de la parole.
Oui.
Bon, et puis l'écoute, etc. Bon. Ce qui m'aide aussi, c'est que, bon, moi je suis anthropologue. Et en anthropologie, une des méthodes de travail des anthropologues, c'est de construire du lien avec les personnes auprès desquelles on mène une enquête, de terrain, un entretien. Il y a ce qu'on appelle en anthropologie les récits de vie. Donc l'anthropologue, il faut qu'il sache comment construire du lien avec les personnes pour qu'elles racontent. Voilà. Et donc, dans mes films, bon, j'utilise aussi cette méthode-là.
D'accord.
Qui fait qu'on installe un dispositif de conversation. Et dans le Médoc, quand on a tourné, c'était ça. Hein. C'était une conversation libre entre elles, comme si elles se rencontraient. Et chacune raconte son parcours, les violences, comment elles se manifestent, comment... Voilà, l'essai de s'en sortir, les difficultés, ainsi de suite. Et c'était vraiment comme une conversation. On oublie même la caméra, en fait.
Oui.
On oublie la caméra. C'est comme si la caméra n'était même pas là.
Mais complètement. C'est... Le fait que ce ne soit pas forcément des questions-réponses a fait qu'on ne cherchait pas, tiens, qu'est-ce qu'il attend que je réponde ou quelle information je dois donner. C'était totalement libre. Et du coup... je serais incapable de dire combien de temps ça a duré. Le fait, je rebondis, de la présence d'Emmanuel faisait qu'il y avait deux personnes, qu'il y avait effectivement un homme et une femme. Je pense que oui, ça a joué sur le lâcher prise, même si la confiance s'est vite installée parce que le projet était présenté et que voilà, nous trois, on a, les trois femmes qui ont témoigné là, qu'on était auprès de ACV2F, ça s'est fait très naturellement. Et je crois qu'il n'y a qu'une fois où Emmanuel ou toi avez relancé en fait, la conversation sur un sujet pour l'approfondir. Mais ça a duré 2-3 heures, je ne sais pas exactement. Ouais. Mais il n'y avait pas d'attente. C'est-à-dire qu'on s'est présenté. Ah oui, tu vois, et puis toi, tu as vécu ça. Bah oui, moi aussi sur ça. Et ça a été très, très spontané. C'était vraiment un récit spontané, naturel, sans se dire, tiens, on attend ça de moi, donc je vais répondre ça parce que c'est de ça dont il a besoin. Et je pense que c'est ce qui a vraiment fait que c'était juste de l'authenticité.
Après, par rapport à ce que tu disais, Dragos, sur le fait d'associations qui disaient comment ça se fait qu'un homme, enfin voilà, je trouve ça très dommage. Enfin, je rebondirai sur ce que disait Mamadou tout à l'heure. On a un engagement par rapport à l'humain. Et l'humain, les hommes, enfin, vous voyez, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a tout le monde. Et c'est un peu dommage, des fois. Et justement, il faut que tout le monde se saisisse du sujet.
Bien sûr.
Et de faire ces différences-là, même si ça peut mettre plus à l'aise la présence d'une femme, etc. Mais le fait de dire ça doit être fait par une femme, enfin, je trouve ça dommage. Et il y a eu des commentaires aussi sur des hommes qui disaient oui, mais c'est toujours les femmes. Et nous, il y a des hommes qui aussi vivent des choses difficiles. J'ai répondu d'ailleurs en disant que non, mais on ne peut pas traiter tous les sujets, mais c'est vrai aussi.
Oui.
Ce n'est pas la même ampleur sans doute, mais c'est vrai aussi.
C'est ça, le pourcentage est
différent.
Mais on
ne peut pas, voilà, là, le choix, il se porte là-dessus. Il faut arrêter de faire toute violence faite à tout humain, quel qu'il soit, enfin voilà, doit être traité.
Mais je rebondis sur l'engagement, justement. Oui, on est engagé là aujourd'hui, nous, c'est autour de cette thématique qu'on est là, mais quand on pose la question, oui, mais il y a aussi des violences aux hommes. Je dis oui, tout à fait. Mais par exemple, une femme qui va s'engager auprès d'une association sur les chiens handicapés, on ne va pas lui reprocher de ne pas le faire aussi pour les chiens qui ne sont pas handicapés.
Bien
Chacun
sûr.
Choisit son engagement. Et moi, j'ai trouvé, certes, ça a peut-être rassuré qui est Emmanuel, mais j'ai trouvé ça très honorable que ce soit justement le porteur de base de projet sur la création. Je sais que Fayette, ta part aussi est très importante, mais j'ai trouvé ça vraiment beau que ce soit deux hommes. Et c'est ce soir-là, à l'avant-première, j'ai un homme qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit cette phrase qui m'a bouleversée aussi, qui me dit, oh, mais après ce film, j'ai honte d'être un homme. Et je lui dis, mais surtout pas. On est en train justement de changer cette image. On dit aux victimes, pas qu'aux femmes victimes, que la honte doit changer de camp. Mais c'est pas dans ce camp-là qu'elle doit aller.
Oui.
Il y a justement, vous faites partie des hommes qui sont respect de l'humain, aussi bien de l'homme que de la femme, chacun sa place. Et on ne parle pas des hommes dans ces cas-là. On parle de personnes qui ont commis des faits très graves. Donc, moi, je les qualifie de monstres, mais ce ne sont pas eux les vrais hommes.
C'est bien, justement, c'est bien
qualifié. Merci. Merci à des hommes de porter ces projets.
Ben oui,
et Emmanuel a peut-être rassuré sur une présence féminine. Moi, ça ne m'a pas du tout posé question que ce soit deux hommes qui portent, parce qu'en fait, la relation de confiance, elle se fait avec l'humain, peu importe l'étiquette, le costume, la casquette de travailleurs sociaux, de ci, de ça. En fait, c'est une relation d'humain à humain qui se passe là. Et la confiance, elle s'est tissée comme ça.
C'est dommage de fermer les portes, voilà, pour
bien pour évidemment, ça. Bien évidemment.
Oui, c'est vrai que, bon, nous sommes... je dirais que, bon, nous sommes une équipe.
Oui.
Le réalisateur, les producteurs, et les bénéficiaires et les témoins. Nous sommes une équipe parce que nous sommes tous sensibilisés sur ce fléau qui gangrène ce monde d'aujourd'hui. Je pense que nous avons collectivement la même méthodologie de l'écoute, du partage, de la construction.
Oui.
Et c'est ce qui nous a amené à ce film-là. Et c'est vrai qu'on a utilisé plusieurs paramètres naturels. On n'est pas parti puiser dans les guides des techniques de communication ou autres. On l'a fait vraiment de manière spontanée.
Voilà.
Et j'ai été moi personnellement très choqué. J'en ai parlé à Muriel, j'en ai parlé à Dragos. Quand on avait répondu à cet appel à projet et que un organisme financier nous dit que nous ne sommes pas habilités et qu'il faut voir les associations qui sont habilitées.
D'accord.
Et la meilleure réponse, c'était de ne même pas répondre.
Oui, oui. Voilà. Très bien. Voilà. C'est souvent le plus impact.
Là, ça nous a choqués.
Oui, oui, il y a de quoi, oui.
Ça nous a choqués. Comme s'il y a des personnes qui sont habilitées pour l'humain. Tout le monde est concerné.
Ben évidemment.
Il n'y a aucune association qui peut prétendre qu'elle a la paternité ou qu'elle a le monopole de telle ou telle action.
Bien sûr.
Nous sommes tous citoyens de ce monde et nous sommes tous sensibles sur la même question. Nous, on ne cherche pas la lumière.
Oui.
On cherche à travailler dans la discrétion, dans la confiance, sans tambour ni trompette. Nous sommes pratiquement tous des bénévoles. Ici. Quant au coût de la réalisation du film, généralement, ça demande beaucoup de sous.
Oui.
Mais on s'est beaucoup démerdé avec le réalisateur, avec les sous que nous avons eus.
Oui.
Nous avons essayé, sachant que la location d'une caméra professionnelle avoisine les 4000 euros.
Oui, c'est énorme.
Sans compter les accessoires et le temps mis. Ça a mis beaucoup de temps. C'est un temps nécessaire pour la construction de la confiance entre nous par l'intermédiaire du réalisateur et les vaillantes combattantes qui sont là et qui aussi ont saisi cette occasion pour parler parce qu'on ne leur a jamais donné la parole.
Oui.
C'est toujours des spécialistes qui parlent à leur place et des concepts qu'on décline. C'est la première fois dans l'histoire de ce calvaire que des femmes prennent le micro et parlent d'elles-mêmes de ce qu'elles vivent.
Oui.
Je pense que c'est ça qu'il faut que chacun de nous vulgarise, partage et qu'il intègre dans son quotidien, dans son réflexe, dans son rapport à l'autre, à la femme qui est notre moitié, et même plus. Et d'arrêter... avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Voilà. Donc, il faut plusieurs mains. Toutes les associations qui sont à l'écoute aujourd'hui, retrouvons-nous sur des questions poignantes comme celle-là et travaillons ensemble. Personne n'a plus d'expertise que l'autre.
Oui.
Voilà. Donc, partant de cette hypothèse-là, donc, il faut que nous serions à l'écoute, qu'on fasse un travail collectif et dépoussiéré, puisqu'il ne s'agit pas de garder la poussière sous la moquette. Non, il faut la secouer. Et pour la secouer, il faut aller. On a invité pas mal d'associations qui n'ont pas voulu venir.
Oui.
En clair, pourquoi ? Parce que tout simplement, ils pensent qu'on a piétiné sur leur domaine.
D'accord.
Alors okay, que le domaine bien. N'appartient à personne.
Ben évidemment.
Personne n'a le monopole du domaine. Chacun de nous a une sensibilité, chacun de nous a une conscience, chacun de nous a une manière de faire. Et nous, nous avons privilégié de travailler de manière informelle.
Oui, oui.
Parce que quand on formalise les gens, c'est la recherche du pouvoir. Et ça ne fait pas partie de notre ADN, ni de notre vécu, pas du tout. Au contraire, on s'enrichit mutuellement en se retrouvant. Nous, nous avons beaucoup appris avec eux, nous avons beaucoup mûri. Et nous avons à notre regard beaucoup plus objectif et qui correspond à nous.
Oui. Très bien. Mais c'est vrai que c'est... Pour être honnête, je sais quand l'avant-première, on était invités et je voulais venir. J'étais personnellement sur une période un peu fragile psychiquement, on va dire. Hein. Donc du coup, je sais que c'était poignant et j'ai pas. Mais je sais qu'on a le lien et que on va pouvoir le visionner. Donc il me tarde de le voir.
Voilà. S'écouter et se dire de le regarder quand on est
oui.
prêt.
Moi, oui.
Ouais, c'est pas évident.
Je me suis pas préparée. Ça a été un peu bouleversant. Puis c'était une semaine qui l'était fortement pour moi aussi. J'ai
Bien
reçu
sûr.
Le lien. Mes enfants qui sont ados voilà, aimeraient aussi le regarder, un ami aussi. Et pour le moment, je ne suis pas encore prête à le revoir.
Ouais.
Donc c'est important de s'écouter, de connaître. Non, mais voilà, Bien c'est sûr. Important de se préserver et de se dire oui, mais plus tard, là, oui. pas tout de suite.
C'est important de le voir, parce que je pense que c'est un truc qui devrait vraiment être vu et revu et revu et revu. Hein. Et, mais oui, c'est vrai que je pense qu'il faut l'emmagasiner.
Enfin, le réceptionner. Oui, mais... capacité de le recevoir.
C'est
et
ça.
Dragos avait prévenu là-dessus. Enfin,
tu nous avais avertis.
Oui.
Donc,
c'est ce qu'on dit, ce sont des graines qui sont semées, et après elles sont semées là, puis le vent va en emporter, et puis à un moment donné, chacun la recevra, mais quand la terre sera suffisamment prête à la recevoir. Quoi.
Bien sûr.
Ouais, et puis le film, dans sa construction, permet ça.
Oui.
Il est organisé en chapitres. Et chaque chapitre, c'est un thème. Chapitre 1, 10 femmes, on les découvre, elles racontent leur parcours. Chapitre 2, les différentes formes de violence. Chapitre 3, le départ, comment on fait pour partir dans ces cas-là. On essaie, on échoue, on recommence, ainsi de suite. Toute la complexité de comment partir.
C'est ça.
Et chapitre 4, s'en sortir. Donc on peut choisir librement de ne voir, par exemple, que le chapitre 2. Pour essayer de comprendre comment les formes de violence multiples s'exercent.
Oui, oui.
Violence sexuelle, violence physique, violence économique, ainsi de suite.
La psychologique.
Voilà, oui. Et les emprises et tout ça. Bon, si on veut voir, mais au-delà de tout ça, comment on s'en sort finalement ? On peut choisir de ne regarder que le chapitre 4. Donc, sous forme d'atelier, de débat et de discussion autour du film.
Oui.
Bon, on peut aussi choisir de voir... tout le film, voilà, du début jusqu'à la fin.
Oui.
Voilà, la souplesse de l'organisation du montage permet ça. Et on l'a fait intentionnellement pour que ça puisse être un outil. Un outil de débat, de discussion au niveau des associations, des écoles. Enfin, c'est les formes variées et multiples, quoi, pour que ce soit accessible. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un film qui est dur.
Oui.
Qui est dur, c'est poignant.
Oui.
On n'en sort pas comme ça. Et j'ai envoyé le lien du film en Guyane.
Oui.
Et une amie qui a vu le film, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un mail que j'ai reçu hier. Et elle dit que j'ai visionné ton film. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Peut-être une autre fois, mais cette fois-ci, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que ça m'a réveillé. Mais mon propre parcours, c'est une femme qui a été victime de violence. Et à plusieurs reprises, elle a eu un premier compagnon. En plus, c'était un psychiatre. Mais qui était quelqu'un aussi qui était avec l'alcool. C'est un problème. Et évidemment, quand il est sous l'emprise de l'alcool, mais c'est la violence, quoi. Et elle a fini par se séparer de ce monsieur-là. Elle a eu un deuxième compagnon. Malheureusement, c'était encore des violences exacerbées. Et dans ces cas-là, c'était plutôt violence psychologique, emprise, etc. Elle dit que quand j'ai visionné ce film, tout ça est remonté. Et donc, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout.
C'est sûr, oui.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai aussi, du coup, eu deux parcours, finalement, de femmes victimes de violences conjugales. Hein. Le jeune femme, père de mes enfants, c'était de la violence psychologique et physique. Là, il y avait une emprise de drogue à l'époque, et puis ça dégénérait très vite. Je me suis partie, je suis reconstruite, je suis devenue gendarme. Donc, je fréquente quelqu'un en me disant, lui, c'est un gendarme, il fera les choses bien. Maintenant, finalement, il était encore pire. C'est le pire monstre que j'ai pu rencontrer parce que j'ai subi des violences sexuelles. Alors, moi, ce n'était pas sous soumission chimique, c'était à mon insu des captations d'images. Et même une fois sortie, en fait, je me suis aperçue que ma fille aussi avait subi des agressions sexuelles. Okay. Et c'est là où c'est important de se dire, là, on a quand même un procès assez historique qui s'est passé à l'automne, qui fait que, non, l'auteur de violences conjugales et sexuelles, incestueuses ou autres, n'est pas le monstre avec un masque qu'on peut facilement identifier, parce qu'en fait, il est souvent, très souvent, voire quasiment tout le temps, derrière un masque de quelqu'un bien sous tout rapport. On entend toujours, mais c'était quelqu'un de bien, on n'aurait jamais cru, il avait un réseau social important, une place importante, une étiquette. Et ça, dans le film, c'est quand même assez marqué parce que finalement, les différents profils des femmes, mais donc aussi des conjoints, montrent bien que sur 10 parcours, il y a des similitudes dans les violences, dans la façon dont ça se met en place, dans les difficultés qu'on rencontre. Oui. Mais finalement, c'est des profils de femmes comme d'hommes qui sont complètement différents et qui ne sont pas du tout clichés. Oui, pas du tout. Oui. Et ça, c'est important, en fait, que tout un chacun, comme on disait tout à l'heure, en fait, on s'enlève ses œillères de dire « Ah ben non, il sera forcément alcoolique ou drogué ou un cassos ou machin. » Non, pas du tout. C'est très, très faible, finalement, ce type de, entre guillemets, d'auteur, quoi.
C'est visible, cela.
Voilà. Mais c'est important que tout le monde, en fait, en ait cette lecture et de pas se dire « Ah ben non, c'est pas possible. Lui, il est gendarme, il est policier, il est magistrat, il est avocat, il est psychiatre. » Non, ça peut toucher tous les milieux, tout un chacun. Et il faut sortir de ces étiquettes-là et, en fait, regarder finalement les actes et la façon de se comporter. C'est là où on peut déceler quelque chose. C'est ce que dit Marie-Christine. Et c'est ce que j'ai dit ce soir même là. Une fois que les volets sont clos, une fois qu'on est chez soi, si on n'a pas ces paroles de témoignage authentiques qui sont pas bien mises avec des jolis mots, avec des jolis chiffres pour que peut-être ça parle à tout un chacun. Non, si c'est pas authentique, en fait, on sort de la réalité et on va regarder comme si on regarde le journal télé, puis après on passe à autre chose. Là, parce que c'est que de l'authentique, ce ne sont que les paroles des femmes. Oui. Il n'y a pas d'analyse de professionnel, il n'y a pas de jeu d'acteur, rien. Ce n'est que de l'authenticité.
Oui.
Donc c'est là où ça bouleverse forcément, ça réveille un parcours de femmes, d'enfants, de témoignages, de se dire « Ah mince, bah alors là j'aurais peut-être pu agir aussi en fait parce que je ne me suis pas fait confiance, mais là j'aurais dû faire quelque chose en tant que professionnel, hein, dans une association, quand on est instituteur, quand on est dans un club de sport. On a tous été témoins de faits où on se... Et qu'est-ce qu'on se dit ? Oh, ça ne me regarde pas, ou j'ai mal vu, ou j'ai mal interprété.
Oui. »
Non, quand on voit le film... On se dit, si, en fait, là, j'ai un rôle à jouer. Ça fait partie de mon devoir. Moi, aujourd'hui, je témoigne, c'est mon devoir de citoyen. Mais en fait, maintenant, quand on est sensibilisé à cela, quand on nous a ouvert les portes, qu'on a enlevé les jolis masques, les jolis cadres, on est tous concernés.
Oui, oui.
Tous.
C'est...
Mais... Non, juste, je rajoutais pas... Elle parlait des enfants. Ce que je trouve dans le documentaire, c'est la place prégnante aussi des enfants. Et ça, c'est dans toutes les histoires, quoi. Et... c'est indicible pour... Oui, vas-y Lola.
Parce qu'on nous dit, on dit plus que ce sont des enfants témoins. Maintenant, ils ont une place. On dit que ce sont des victimes vicariantes.
Oui.
Mais en fait, ce sont pleinement des victimes. Et des futures victimes ou des futurs auteurs. Parce que s'ils ne sont pas accompagnés, sortis de ce schéma de mauvaise construction qu'ils ont dès l'enfance, on ne leur apprendra jamais que ce n'est pas normal ce qu'ils ont vu, subi ou vu.
Oui.
Et potentiellement, c'est ce qui a été l'élément déclencheur là, de me dire « Stop, je dépose plainte aussi pour mes enfants parce que je veux qu'ils entendent que ce qu'ils ont subi, ce n'est pas normal. » Et c'était le beau-père, donc c'est avec mon ex-conjoint qui avait été, lui, auteur de victime. Et on s'est posé tous les deux et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Oui, là, les enfants ont dénoncé ceci à la psychologie, les gendarmeries, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors lui, au départ, comme toujours, on ne va pas déposer plainte, on ne va pas rajouter. Et au bout d'un moment, je dis stop. Tu as subi des violences quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu as fait adulte ? Tu as reproduit. J'en ai vu quand j'étais enfant et puis voilà, là, ce que j'avais subi avec lui fait que j'ai laissé faire. On attend quoi ? On a deux garçons. Il y en a un qui devient auteur, il y en a un qui est victime. Stop, ça suffit. Il faut qu'eux, ils soient construits avec ce schéma de dire non, là, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu, ce n'est pas normal. Donc, je dépose plainte. Et ils ont été entendus. Alors, le parcours est aussi difficile pour eux. Hein. Comme victime, on répète 14 fois la même chose. Et au bout d'un moment, on se ferme et on ne veut plus. Et... Mais ils ont entendu. Ils ont été reconnus. Ils ont touché des dommages et intérêts. Et aujourd'hui, profondément, je pense qu'ils ont compris que ce qu'ils ont subi, ce n'était pas normal. Et que jamais, un, ils continueront de le laisser faire. Deux, ils se mettraient à le faire aussi.
Oui, oui.
Ça n'enlèvera pas, moi, la culpabilité de mère de ne pas avoir su avant l'empêcher. Ça, on vit avec.
C'est le cœur de maman, ça.
Mais oui. Voilà, j'ai aussi dépassé ça, de le dire. Je leur ai demandé pardon, mes enfants. Oui. Mais je leur ai expliqué aussi. J'avais pas su, j'ai pas pu, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait de mon mieux à ce moment-là, et au fur et à mesure, j'ai fait mieux. Mais j'aimerais voilà, que ça puisse vous servir, pour que vous soyez plus fort. Je le redis parce que c'est une phrase, hein, les faits d'ACV2F, on l'entend. Il est plus facile de construire un enfant solide que de réparer un adulte qui a été brisé.
Oui.
Et en fait, la sensibilisation que je fais aujourd'hui avec cette association, mais qu'on fait tous hein, avec ce documentaire, cette émission et au quotidien, elle est vraiment pour moi là. Il est là, elle est là l'importance.
Oui,
on accompagne les femmes et moi j'ai été accompagnée. Mais en fait, c'est dès l'enfance qu'il faut construire correctement avec cette confiance dont on parle. Se faire confiance quand on voit, quand on subit, quand on a un truc qui nous gêne. Mais après, grandir avec cette structure qui soit cohérente avec un respect d'humain, simplement.
C'est ça. On revient dessus.
Absolument, tout à fait. Bon, c'est vrai que nous, on s'inscrit directement dans ces trucs, même le montage du film, la démarche pédagogique. De le faire en quatre
chapitres,
etc., bon, correspond à chaque profil donc de public, etc. Mais c'est pour aussi en faire un outil pédagogique polyvalent qui peut aller dans les écoles, sensibiliser les enfants, sensibiliser plein de choses. Je sais qu'à la projection, l'avant-première, il y avait des jeunes stagiaires qui étaient chez nous en observation, donc en stage d'observation. Et qui ont vu le film, d'ailleurs, qui ont aidé à la restauration. Après, ils sont descendus. Ils m'ont dit, tu sais, Mamadou, maman, c'est ça qu'elle vit à la maison.
Ah, ah oui.
Il y en a eu plusieurs.
Ouais.
Ah ouais.
Il m'a dit, maman, c'est ce qu'elle vit à la maison. Il me dit, et pourquoi tu n'as pas contacté? Je lui ai dit, oui, on l'a contacté. Mais elle nous a dit, mais elle n'a pas voulu être... filmé.
Oui, c'est pas facile.
Il m'a tout simplement dit oui, parce qu'elle a honte.
Ah oui.
Vous voyez. Donc, j'ai dit au moins, ce segment-là de jeunes a été touché. Donc, ce sont des gens qui ont moins de 18 ans. Ils ont été touchés. Donc, c'est-à-dire que l'outil, ce sont eux-mêmes qui vont le vulgariser dans leur famille, ils vont en discuter entre eux. Et avec un support pédagogique d'accompagnement, la mission locale aussi est mieux placée pour ça. Parce qu'elle a des jeunes, elle a des trucs, elle peut aussi jouer un rôle central. C'est pourquoi c'est une équipe. C'est une action collective, une prise de conscience collective. Et chacun de nous dans son domaine, nous dans le cadre de l'insertion, l'accompagnement donc des femmes sans diplôme, sans qualification, à avoir une source de revenus, justement en prévision de ça. Pour qu'elle puisse avoir une autonomie et ne pas dépendre de l'homme tortionnaire, de l'homme pouvoir économique, mais qu'elle puisse d'égal à égal discuter avec lui, partager, et œuvrer pour le bien-être de la famille.
Oui, oui.
Je pense que nous sommes tous là, dans la même configuration,
Le
même souhait, dans la même objection. Donc, c'est vraiment ce que je salue, c'est ce que chacun a pu en tirer. Le monsieur dont elle a parlé, je lui rendrai hommage. C'est Pedro Chancez. Pedro Chancez, qui était un ancien élu, a fait un ancien fonctionnaire de la mairie de Senon. La même soirée, quand il l'a dit, il est venu, il m'a dit, Mamadou, j'ai honte d'être homme. J'ai eu le même langage que lui. J'ai dit, la différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es là. Et ceux qui se sentent concernés, ils ne sont pas là. Pour certains, pas tous. Voilà. Il avait les larmes aux yeux. D'autres nous l'ont dit d'une autre façon. C'était poignant, c'était vraiment, c'est la première fois qu'on voit les gens qui sont victimes parler. Il y avait même des parents, des gens qui ont été sauvagement assassinés, qui étaient là au film aussi. qui ont appelé pour dire est-ce qu'on peut participer. On leur a dit bien sûr, vous pouvez venir. C'est votre film aussi. C'est une tribune bon, pour ceux qui n'ont pas de voix. Ceux qu'on n'a pas laissé exprimer ce qu'elles vivent. Et aujourd'hui, elles ont pris la parole. C'est une bonne école de vie. Et nous ont donné une belle leçon à nous maintenant de faire en capacité donc de continuer cette action. Aux deux radios en fait partie aussi.
Donc, et elles ont libéré la parole d'autres personnes. Par rapport à ce que tu dis, effectivement, le soir même, même après, il y a effectivement des personnes qui sont venues remercier. Je vois un monsieur d'un certain âge qui me dit parce que ça a été mon parcours. Et c'est vrai que voilà, le documentaire, vos témoignages, ce que vous avez dit aussi, parce que il n'y a pas eu beaucoup de temps, c'était dommage, je trouve, mais bon, t'en étais un peu pris par le timing du rocher, ça a permis à d'autres de libérer aussi la parole.
C'est vraiment dans ce sens que je disais tout à l'heure que je le vis comme un devoir. Je pense que ma prise de conscience, elle a vraiment débuté lorsqu'on a fait le tournage de façon assez finalement informelle, parce qu'on n'avait pas l'impression de tourner, parce que c'était vraiment un échange très fluide avec, avec Vanessa et Amy. En suivant, j'avais été invitée à témoigner au département dans le cadre de la journée du 25 novembre. Et ce jour-là, j'ai vraiment vécu, parce qu'il y a eu des questions de poser, et juste avant, j'avais été très, dans le même schéma que ce que je disais tout à l'heure, très en colère parce que c'est ce qui était dit pour faire beau. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, moi, je suis là pour être authentique. Donc, donc je vais parler avec mes tripes. Ça, et ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme le phénix. Alors, ça paraît peut-être cliché, mais j'avais eu l'impression d'être brisée, écrasée par ce qu'avait pu dire mon ex-mari. Et là, je me suis dit, maintenant, stop, ça suffit. De mes cendres, je renais. Et ma voix par ma voix, je suis chanteuse. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de témoigner, de raconter. Et de là est née vraiment ma renaissance, ma nouvelle vie, où du coup, je témoigne de plus en plus. Mais comme tu le dis, Muriel, pas pour qu'on parle de mon histoire. Non, parce que, un, certes, ça fait partie, un, quand même, d'une petite part de ma reconstruction. Mais parce qu'un, il y a cette sensibilisation qui est nécessaire, cette prévention auprès des jeunes. Mais aussi pour donner de l'espoir, en fait, pour dire, un, tu n'es pas seul. Et de deux, on peut s'en sortir. Et en fait, le dernier chapitre du film, il est là. Il est l'espoir. L'espoir que l'on envoie. C'est, oui, il y a la sensibilisation, la prévention, le témoignage, tout ce qui va être éducatif pour les professionnels, etc. La prise de conscience, les termes. Mais l'espoir, il est aussi important. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation. Non. Et il faut qu'on garde cette notion d'espoir. Parce qu'il y a quand même, de façon générale, en France, là, une évolution. Moi, je la trouve lente, mais il y a de l'évolution quand même. Donc, oui, mais là aussi, moi, je vais garder cet espoir. On continue de le dire. Si on perd espoir, on n'y va plus. Moi, je crois vraiment en ça. Et si je ne crois plus en ça, je ne vais plus rien faire. Et c'est ce qu'on disait, si on n'a pas la conviction, si on n'est pas cohérent jusqu'au bout de nos actions, parce qu'on croit en ce qui est juste, en ce respect juste de l'humain, on ne demande pas la lune, on veut juste être respecté. C'est quand même juste une base essentielle pour tout un chacun. Donc, si... Il faut les semer ces graines d'espoir aussi. Et ce schéma, voilà, moi, me permet aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce projet en parallèle, du coup, d'un album qui s'appelle Mots de femme, M-A-U-X, pour cette association Agir contre les violences faites aux femmes en Médoc, et où c'est du témoignage de vie de femme, évidemment, pas que des difficultés, mais qui a cet amour et cet espoir qui est vraiment un porteur. Les messages, et c'est important dans cet album.
Et puis ça permet aussi de sortir d'entendre les témoignages comme ça. C'est vrai qu'ils sont beaucoup trop rares en fait. C'est vrai quand on réalise, c'est en tant que des spécialistes, comme tu disais justement tout à l'heure. Et ça peut permettre aussi de sortir de cette sensation d'être seul. Je pense que quand on vit des choses comme ça, on se sent seul. Et là, ça permet aussi, c'est peut-être pour ça aussi que la parole se libère après. On n'ose plus, puisque du coup, tu vis ça, moi aussi.
Toi aussi,
voilà.
Oui, puis l'authenticité. Enfin, tu le sais bien, Pierre. Effectivement, ce sont souvent des spécialistes ou des professionnels qui parlent à la place des personnes. Les jeunes, on parle à leur place. Enfin, nous, on agit par rapport à ça pour qu'ils puissent s'exprimer directement. Mais très souvent, on parle à leur place quand même.
C'est vrai.
Et ça permet pas d'avancer, ça permet pas de construire de l'avant, quoi.
Et de bien comprendre le problème. C'est ça. Et je pense que c'est en ça qu'on doit parler de courage, je pense, tout à l'heure. Entre autres, d'ailleurs.
Absolument. Il y a même des professionnels qui ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire nous avons beaucoup appris ce soir-là. Parce que c'est la première fois que nous entendons vraiment les femmes parler de ce qu'elles vivent. Puisque auparavant, c'est nous qui formulons nos questionnaires qu'on leur pose. Donc, ils sont obligés de s'inscrire dans ce cadre-là. Et là, chapeau à vous tous pour ce travail pédagogique. Vous nous avez donné les outils pour nos actions de demain. Voilà ce que nous ont dit certains professionnels, quoi, etc. Et là, je trouve que c'est une...
La meilleure récompense.
Une meilleure récompense. Comme dit Muriel, laissons les autres parler de ce qu'ils vivent.
Oui.
Et nous, on est là pour les accompagner aussi. On observe, on écoute, on accompagne. Elles agissent.
Et l'écoute, c'est un mot qui revient souvent, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on oublie peut-être trop souvent aussi.
L'écoute, mais s'écouter soi-même, écouter, mais c'est vrai que s'écouter soi-même, c'est aussi parce qu'il y a cette relation de confiance qui a été faite dès le départ, où on nous a invités à nous écouter vraiment, et on nous a laissé nous exprimer réellement, mais parce qu'il y a eu cette relation de confiance avec tout un chacun. On est devenue courageuse parce qu'on a osé parler, certes, mais parce qu'il y a eu aussi tout le travail des professionnels, de l'association, des services sociaux, qui font qu'on peut en arriver là. Donc c'est, encore une fois, tous ensemble, avec un respect mutuel, de s'écouter chacun, de laisser la place à ce que chacun puisse s'exprimer, qui fait qu'on peut avancer ensemble vers le même objectif.
Et c'est beau, ça. Enfin, c'est, quand on voit l'union, tout ce qui s'emboîte, puis, là, c'est...
Puis dans le dispositif de réalisation, bon, ça, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait. Le timing de la réalisation d'un film comme ça, ça ne correspond pas au timing des institutions qui nous accordent les subventions.
Ah oui.
Parce que à la fin de l'année, il faut faire le bilan du rendu. Or, à la fin de l'année, moi, j'en étais pas encore à faire le tournage. J'en étais à établir le lien avec les personnes avec qui on voudrait travailler. Bon, parce que elles ont accepté, mais il y a d'autres femmes qui ont accepté. Et le jour où on les appelle pour venir pour le tournage, et on dit finalement je ne vais pas pouvoir le faire. Il y a eu des cas comme ça.
Évidemment.
Voilà, donc il faut jouer avec tout ça, qui font que dans la temporalité, ce n'est pas un film qu'on fait avec des échéances précises, parce qu'il faut s'adapter au rythme des contacts qu'on a pu établir. Et puis voir comment travailler avec tout ça, quoi. Il faut un dispositif spécifique à un film qui est d'une grande sensibilité. C'est une relation humaine, fondamentalement, qu'il faut... le dispositif technique, lui, il est là, la caméra, elle vient après. Mais elle s'insère dans une relation humaine, en fait. C'est juste un outil technique qui enregistre des images et du son. Mais ce qui est fondamental, c'est la relation humaine. Voilà. Et pour la construire, ça demande beaucoup de temps. Mais le résultat montre que vraiment, on a eu raison de faire ça, même si les institutions se posaient des questions, mais ce film, il va arriver ou pas.
Merci d'être sorti des cases et d'avoir laissé l'authenticité parler avant les chiffres ou le cadre réglementaire.
C'est vrai aussi qu'après, certains ont compris. Ils ont compris pourquoi le film a duré. Ils ont dit on ne pouvait pas mesurer l'importance de ce travail. Puisque pour nous, c'était une caméra qui est là, puisqu'ils sont habitués au classique. Caméra qui pose des questions aux uns aux autres. Mais ils ne pensaient pas qu'il y avait un travail. On n'a même pas eu besoin de leur expliquer le déroulement. Ils ont tout de suite compris.
Ça coulait de source.
Ils ont été convaincus.
Ils ont été convaincus. Ils ont dit, là, on a compris. Effectivement, ça prend du temps. Le temps de l'écoute, le temps de la confiance, le temps de l'observation, le temps de l'action.
Et puis nous-mêmes de comprendre.
Et nous-mêmes de comprendre l'autre.
Parce que nous-mêmes, on apprenait aussi. On a lu des choses, on a vu des choses, mais toute la complexité, on ne la cernait pas nous-mêmes au départ. C'est vraiment en écoutant les femmes pendant le tournage qu'au fur et à mesure, nous aussi, on comprenait mieux. Au départ, pourquoi elles ne s'en vont pas?
Mais c'est souvent la première phrase qu'on peut entendre quand on parle de ça.
Tu subis des violences, mais pourquoi tu t'en vas pas, quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi elles restent, quoi? Mais non, on ne peut pas partir comme ça.
Non,
puis le phénomène d'emprise psychologique, C'est impossible de l'expliquer, en fait, tant qu'on... Et même en l'ayant vécu, c'est impossible de l'expliquer.
Ouais, de mettre des mots
dessus. C'est là où c'est important que tout un chacun, en fait, reste juste à sa place de dire, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas le comprendre. Ouais, même en l'ayant vécu, je ne peux pas le comprendre. Par contre, je peux l'écouter et l'accompagner. Parce que la même situation vécue par deux femmes différentes qui n'auront pas eu la même déconstruction éducative, voilà, quand elle était enfant, est-ce qu'on lui a donné de l'estime d'elle-même, est-ce qu'elle a eu la confiance en elle, voilà, à quel moment ça a été déstructuré, la même personne, les mêmes faits, elle ne les vivra pas de la même manière.
Bien sûr.
Donc, moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre ce que c'est de l'emprise. Par contre, l'écouter et respecter et donc accompagner la personne à en sortir, c'est juste ça qui est nécessaire de faire. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Moi, j'ai une question assez... Question de ma fille de 8 ans, voilà, parce que moi, clairement, j'ai eu aucune réponse à lui donner. Parce qu'il y a des choses où on a des cadres qui sont posés, donc là, ça va dans quelle case? Maman, puisqu'il était gendarme, il savait que c'était interdit. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce que vous répondez? Donc moi, j'ai expliqué ce que j'ai pu, de dire y a des personnes qui savent et qui font les choses bien, puis il y a des personnes qui ont une façon de penser différemment, qui vont s'assimiler à être... C'est pas de la méchanceté, c'est bien au-delà. OK. Mais s'il sait que c'est interdit, pourquoi il le fait? Elle a besoin de comprendre. Mais en fait, comment j'explique quelque chose qui est inexplicable? C'est des faits différents. L'emprise, même moi qui l'ai vécu, je suis incapable de vous l'expliquer. Je pense qu'il faut sortir de ça et arrêter d'essayer de le comprendre, de se dire ça peut ressembler à tous les exemples qui sont donnés là, par exemple dans ce film ou dans d'autres films qui sont joués et tout, et de se dire ok, ça existe, donc j'écoute la personne, je ne la juge pas en lui disant mais pourquoi elle s'en va pas, parce qu'au vu de ce qu'elle... Non, en fait, on oublie ça, je l'écoute, je respecte son histoire et je l'accompagne comme je peux. Si je peux, je fais, si je peux pas, je me renseigne ou je l'emmène à se renseigner vers quelqu'un qui pourra l'accompagner. Mais tout ne peut pas se comprendre. Tout ne peut pas s'expliquer.
Et le jugement, le mot est juste, voilà.
Les mots aussi, je l'ai dit, cette phrase-là. Mais pourquoi? Mais en fait, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça et se dire juste, là, elle a besoin d'aide. Elle ne se rend peut-être même pas compte dans ce qu'elle est en train de me raconter. Mais comment je peux l'aider?
Oui, et c'est pas lui en disant, le truc, c'est assez simple.
Non, c'est vrai que ça nous a appris beaucoup de choses. Je rebondis sur ce que Dragos a dit et ce que Muriel et Lola aussi ont dit, c'est que nous avons appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui me reviennent comme ça. Tout à l'heure, on a parlé. Il y a une dame qui me disait chaque fois, quand elle rentrait chez elle là, et tout, le mari lui dit « la madame
». Okay.
Parce qu'elle entreprend.
Okay.
Alors, lui n'arrive pas à digérer qu'elle puisse entreprendre. Mais je pense que le fond du truc, c'est toi, en tant que femme, tu entreprends. Et moi, en tant qu'homme, je jouis, donc je suis jouisseur de mon travail. Donc je ne produis pas. Toi, tu produis. Ça commence comme ça. Et le film nous a permis de comprendre le cheminement. Nous recevons régulièrement des personnes qui nous parlent sans dire exactement l'objet réel de leur visite. Ils viennent et cherchent un prétexte. Mais le film nous a appris aussi à mieux comprendre le message non dit et qui nous a permis naturellement, comme on a des relations naturelles avec les gens de fraternité, on ne les stigmatise pas, on ne les juge pas spontanément, et les gens nous disent effectivement ce film-là me parle parce que en réalité c'est ce que je vis. Mais les conditions sociales sont telles que je ne peux pas, je ne pouvais pas participer. Il y a beaucoup de gens qui voulaient participer au film. Et là, après, ils disent non, ça va faire un scandale. Voilà, je préfère ne pas, je préfère ne pas. Ça va être un séisme. Donc, ça aussi, ça met, je dirais, du piment vraiment dans la pertinence donc, du film. C'est pas parce que c'est notre action collective tous que je le magnifie, non, mais le résultat il est là. Et nous-mêmes nous sommes, je dirais, très heureux d'avoir eu cette prise de conscience et d'avoir apporté aussi notre petite part modeste par rapport à elle, au témoin, mais qui a permis, par notre intermédiaire aussi, de conscientiser d'autres segments de population et savoir que c'est ça le vrai fléau de la société d'aujourd'hui.
Oui. Alors,
mais elle est peut-être là, la forme de courage dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai que ce soit la peur ou la honte, arriver à les dépasser. Alors moi, je vais être honnête, je pense que j'en avais même pas conscience à l'époque. Oui, il y avait la peur, mais il y avait tellement de trucs. Là, j'ai vraiment entendu le message de « ça peut aider d'autres femmes ». Ok, donc du coup, si je raconte mon histoire, ça peut aider d'autres personnes. Bon, bah ok, on y va. Effectivement, je pense qu'après les mois qui se sont passés, si j'avais un peu plus eu conscience de tout ça, peut-être que la peur aurait pris le dessus. Après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, c'est que j'étais propriétaire et que j'avais déjà des revenus et tout. Donc, j'ai pas eu ces freins-là, contrairement à ma première histoire. Donc, voilà, au niveau matériel au quotidien, j'ai pas autonomie. Eu ces peurs-là. J'ai pu assez vite me mettre en sécurité physique. Et donc, du coup, j'avais pas cette crainte-là. Mais c'est pas des peurs physiques. C'était les peurs sociales. C'est qu'est-ce qu'on va dire. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Je veux plus avoir peur et honte à sa place.
Mais c'est
difficile de rester sur le même territoire. Et le regard, quand on croise du monde, de se dire, tiens, est-ce qu'ils ont vu les réseaux de ce que lui, il a pu dire pour se passer pour victime, hein, parce que c'est quand même souvent les Calimero, ce sont eux les victimes des pauvres et vilaines femmes. Et puis, il faut assumer, en fait, aussi, officiellement, avoir été victime de tout ça, de tous ces faits. On parle là de violence sexuelle, d'inceste. C'est pas que moi, ce sont mes enfants aussi qui ont du coup été exposés. Mais en fait, voilà, j'en ai parlé à mes enfants qui sont ados, les deux garçons, en disant oui, non, mais eux aussi me soutiennent complètement. Parce que aussi, stop, ça suffit. Il faut que la parole se libère. Il faut pas avoir honte de raconter ce qu'on a subi. Et en fait, si en plus ça peut servir à d'autres, si ça peut permettre... Mes enfants, mes garçons, j'ai vraiment vu ça. Mais même ma fille, eux, ils ont été entendus, crus, et on les a protégés au fur et à mesure. Et en fait, ça fait partie pour eux, et je l'ai fait, pour aider d'autres femmes, mais principalement pour mieux construire mes enfants sur la confiance qu'ils peuvent avoir, en moi, certes, mais finalement dans la société dans laquelle ils évoluent.
Bien sûr.
C'était ma psychologue de l'époque qui m'avait dit ça. Si vous avez honte et que vous ne racontez pas toute votre histoire, ne serait-ce qu'à elle, en tant que thérapeute, comment vous voulez que je vous aide? C'est comme si vous allez chez le médecin en disant « je suis malade », mais que vous ne lui dites pas tous vos maux. Il ne pourra pas vous soigner tout. Ok. Donc en fait, c'est important de tout dire. Mais quand on se sent prêt, parce qu'effectivement, ça fait quand même par moment tsunami. Il faut être soit assez accompagné, assez soutenu, ou vraiment être sorti physiquement du lieu, des choses. Mais elle est peut-être là, cette forme de courage. C'est quand on se sent prêt, il faut dépasser cette peur et cette honte à leur place. Il faut vraiment que la honte change de camp.
Oui. Et ça sera le mot de la fin. Il y a déjà une heure qui est passée, c'est terrible. Ça passe hyper vite.
Faire une émission avec Lola
sur
mots de femme, et parce qu'elle a une très belle voix en plus.
Moi je croyais qu'on allait conclure par une a cappella.
Malheureusement, on peut pas, on est déjà en retard.
On se retrouve avec grand plaisir.
Grand merci à tous les quatre, vraiment. Lola, Pierre qui roule, t'attends pour l'album, ça c'est clair, net et précis. Et grand merci pour votre présence là et pour ce que vous avez réalisé, qui est d'une utilité, qui fait ses preuves et qui fera ses preuves. Merci cher auditeur. Vous étiez sur Odo Radio. Pierre qui roule vers vous revient donc la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée.